franceinter.fr.
France Inter, il est 8h30. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre, bonjour. Et bonjour à tous. Une bouteille de pastis par jour. C'est à cela qu'il a carburé pendant des années. Mais maintenant, Renaud a arrêté l'alcool, enfin presque. Il continue la bière et il l'explique à la fois dans le Figaro et dans le Parisien ce matin. De longues interviews à l'occasion de la sortie de son nouvel album, prévu dans quelques jours, il raconte sa déchéance, les femmes qui l'ont quitté à cause de son alcoolisme. « Ma vie était une infinie tristesse anisée », dit-il. Il raconte sa peur de mourir, sa peur quand les médecins lui ont dit qu'il allait mourir s'il ne prenait pas davantage soin de lui. Et puis il raconte sa renaissance sans substance, mais avec des amis qui l'ont aidé à remonter la pente et à écrire des chansons sans substance. Dans ces deux interviews, Renaud livre également son regard sur le monde politique. Alors on en pense qu'on en veut, mais les deux journalistes, à la fois dans le Parisien et dans le Figaro, lui ont demandé ce qu'il pensait du climat politique. Il regrette, Renaud, il regrette que Nicolas Hulot ne se lance pas dans la course à la présidentielle. Pour lui, c'est l'homme qu'il faudrait à la France. Il a voté Hollande lors de la dernière élection, mais il juge que le gouvernement actuel est un gouvernement pourri. Il se dit prêt à voter Juppé, dans le cas où Marine Le Pen serait en face au second tour. Mais Sarkozy, jamais. Et puis Fillon, non, quand même pas, dit-il.
François Fillon, qui lui aussi accorde une interview au Figaro ce matin.
« Je me bats pour la victoire », assure l'ancien Premier ministre, qui vraisemblablement n'a pourtant pas pris de substance. « Je me bats pour la victoire ». François Fillon réunit ses cadres ce samedi à Paris, les cadres de sa campagne et les députés qui le soutiennent. François Fillon y croit. Mais à la une du quotidien, c'est un autre dossier autour de ce que le journal appelle les pièges du prélèvement à la source, dossier économique. Le gouvernement s'est engagé à fixer un cadre législatif avant l'été, mais les difficultés techniques sont extrêmement nombreuses. Et pour l'heure, l'administration ne sait pas y répondre. Et du coup, le MEDEF demande que l'entrée en vigueur du dispositif soit reportée d'un an au 1er janvier 2019. Un appel au gouvernement, un appel au chef de l'État, François Hollande. François Hollande qui, après le recul sur la déchéance de nationalité, après et avec le bourbier autour de la réforme du travail, François Hollande qui inspire des mots très saignants de Jean d'Ormesson, toujours dans le Figaro, saignant, habilement saignant. Hollande tombe dans les pièges qu'il a lui-même tendus, explique l'écrivain, avec cette comparaison qu'il fait avec son prédécesseur. Hollande, écrit Jean d'Ormesson, n'a ni les qualités ni les défauts géniaux de Mitterrand. Il ne cesse de sortir de l'ambiguïté à son désavantage. Tout le monde connaît le célèbre principe de Peter. Tout personnage dans une hiérarchie tente d'atteindre son niveau d'incompétence maximum. Nous y sommes, estime Jean d'Ormesson. Autre analyse, à lire dans La Voix du Nord, sous la plume de Mathieu Verrier. Lui également s'intéresse au chef de l'État qui était l'homme de la synthèse. L'homme de la synthèse qui retombait toujours sur ses pattes et il est aujourd'hui devenu le marchand de tapis qui se prend les pieds dedans, écrit l'éditorialiste de La Voix du Nord, qui se fait par ailleurs l'écho du sondage récent de l'IFOP qui donne le chef de l'État éliminé au premier tour, quel que soit le candidat de droite, en visant toujours une réélection. Hollande semble vouloir grimper l'Everest en patin à roulette, écrit-il. Si ce n'était pas si triste, on dirait que l'image est assez drôle.
Et en même temps, peut-on rire vraiment de tout, Frédéric?
C'est la question que se pose à sa une la Dépêche du Midi. Une question à laquelle a répondu un panel de Français pour une enquête BVA que publie le quotidien. Et il apparaît que plus la moitié des sondés, 53%, estiment qu'en effet, on a le droit de rire de tout. Rire par exemple en imaginant la tête de cette américaine de l'État de l'Arizona qui hier a eu la surprise de voir tomber dans son jardin le toboggan d'évacuation d'un Boeing 767. Il n'y a pas eu de blessé, juste un arbre abîmé. Une enquête a été ouverte pour savoir de quelle manière le toboggan a pu se décrocher de l'appareil. Rire également à la lecture du fait divers dont se fait l'écho ce matin, le Progrès de Fécamp, l'interpellation d'un exhibitionniste. Et la seule chose que celui-ci a trouvé à dire pour sa défense, c'est simplement qu'il avait perdu son pantalon. Rire enfin devant les anecdotes rapportées par une sage-femme dans les colonnes du Parisien. Elle s'appelle Sylphie Cochet et elle a mis au monde plus de 10 000 bébés en 30 années de carrière. Et elle publie ses confidences dans un livre qui rencontre déjà un très fort succès, publié début mars. « Poussez Madame », c'est le titre, a déjà séduit plusieurs milliers de lecteurs. Succès tel que l'éditeur a lancé une réimpression. Mais il faut dire que ce que raconte cette sage-femme est croustillant. Il y a cette patiente qui se dresse en plein accouchement et qui, tordue par la douleur, lui lance « Je te maudis jusqu'à la 10e génération ». Il y a ce père qui dit ne pas vouloir de ses jumeaux. « On ne peut pas, la chambre est trop petite ». Il y a cette future mère qui, elle, craignait de donner naissance à un enfant métis. Madame avait eu un amant noir au moment de la conception, le mari n'était pas au courant. Gros stress, jusqu'à ce qu'apparaisse la frimousse du bébé. Une petite fille qui, heureusement, était finalement le portrait craché du mari. Elle raconte par ailleurs que son métier demande parfois beaucoup de diplomatie. Ainsi, lorsqu'une maman d'origine étrangère et portant le nom de Ankul, A-N-K-U-2-L, lui explique qu'elle veut appeler sa fille Kim. Kim Ankul, pas simple à apporter, mais pas très simple à expliquer, se souvient la sage-femme.
Cependant, dans la presse, on trouve aussi foule de sujets qui ne donnent pas du tout envie de rire.
Il y a le calvaire oublié des chrétiens pakistanais, titre de l'article que signe Henri Tink sur Slate.fr. Le dimanche de Pâques, un attentat suicide a tué 73 personnes, dont une trentaine d'enfants dans la ville de Lahore. Un attentat revendiqué par un groupuscule taliban. Et un attentat qui remet en lumière les persécutions dont sont victimes les chrétiens dans ce pays musulman. Il y a cette guerre invisible, ou bien disons peu médiatique, que mène la Turquie dans le petit Kurdistan. Formidable série de reportages à lire sur le site Les Jours. Reportage d'Olivier Bertrand, lequel s'est notamment rendu dans le quartier de Sur, à Sirze, dans le Kurdistan turc, un quartier de gravats, de poussière et de boue. Conséquence des bombardements d'une armée turque qui considère tous les Kurdes comme étant d'éventuels terroristes. Qui peut être heureux de dire « je suis kurde » lit-on sur l'un des murs tenant encore debout. Dans le quartier détruit, la vie est comme suspendue. Les habitants racontent qu'ils ont tout perdu. Et à cela s'ajoutent les rumeurs d'exécution. La police turque achèverait les blessés kurdes. Et puis si l'on revient en France, on ne peut pas ne pas parler des suites des affaires de pédophilie qui secouent le diocèse de Lyon.
Le sujet fait d'ailleurs la une du Monde qui évoque l'onde de choc de l'affaire Barbarin.
Alors que les enquêtes progressent, d'anciennes affaires, parfois classées, remontent à la surface. Et les victimes racontent donc maintenant leur cauchemar, quitte parfois à rompre avec leur famille. C'est ce que décrit Marion Van Rettergem, qui a mené l'enquête dans une ville partagée, dit-elle, entre l'exigence de justice et celle de miséricorde. Les catholiques lyonnais et la bourgeoisie font corps autour de l'archevêque, soupçonné d'avoir étouffé les agissements de prêtres pédophiles. Ils font corps et ne supportent pas le lynchage médiatique que subit à leurs yeux le si droit cardinal, la minimisation des faits, le déni et bien sûr la peur de faire scandale, la gêne de s'attirer les foudres de la communauté paroissiale. Tels sont les sentiments qui habitent même certains des parents des victimes. De sa mère, l'une d'elles a ainsi entendu « Si tu t'en prends à Monseigneur Barbarin, toute la famille finira en enfer ». Il n'empêche, avec les deux nouvelles affaires révélées depuis jeudi, le cardinal est plus que jamais dans la tourmente, estime la Nouvelle République, tandis que l'Indépendant se demande s'il ne s'agit pas là du scandale de trop. Dans l'Est républicain, Alain Dussart, lui, se souvient de la loi édictée par le fondateur du scoutisme, Baden-Powell, avait écrit qu'un scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes, et jamais, commente l'éditorialiste, jamais ce noble officier anglais n'aurait imaginé que ces jeunes garçons élevés dans un esprit de charité tomberaient dans les mains lubriques de curés tripoteurs et d'un clergé complice de ces bergers transformés en loups prédateurs de tant d'innocence volée. Plus léger pour finir, Patricia, nous avons commencé cette revue de presse avec l'interview d'un chanteur. Un chanteur qui a arrêté de boire. On la termine avec un chanteur, le chanteur Christophe, auquel Libération consacre un dossier.
Pierre Veil est en transe.
Six pages et sa une ce matin.
Oui, le titre à la une, c'est « Total chaos ».
Un chaos illustré en premier lieu par la photo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Patricia, lunettes noires et mains dans les cheveux, des cheveux blonds cendrés. J'avoue qu'au premier regard, j'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Bernadette Chirac. Mais non.
C'est dégoûtant de
la
dire
coiffure.
Ça.
Chaos. Ensuite, c'est dégoûtant pour qui ? Chaos dans l'interview, la très longue interview que l'artiste a accordée à deux confrères du quotidien. Interview débutée en fin d'après-midi et qui a duré jusqu'à 4h du matin. Interview dans laquelle Christophe explique tout à la fois sa vie, ses nuits sans sommeil, ses voyages à Tanger, sa passion pour les boîtes de lait concentrées Nestlé. Interview dans laquelle il dit aussi comment il compose ses chansons. Et il dit lui-même le chaos lumineux, le chaos positif, de la baise, de l'amour. Puis il confie lucide qu'il ne comprend pas tout ce qu'il dit. Franchement, nous non plus. Du coup, on s'interroge. Christophe prend-il des substances ? Mais non, je prends rien, assure-t-il. C'est ça le pire, je ne bois que du thé. Mais le thé, ça fait des merveilles.
Bonheur. des mouvements délicats, juste sous mes doigts si fragiles qu'elle seule peut voir et sentir.
Le nouvel album de Christophe sort la semaine prochaine. Ouais. Les Vertiges du Chaos, ça s'appelle.
Merci, et c'était la revue presse donc de Frédéric Pommier.